l'espace 2. Entre les lignes, Jean-Marie Félix.
Entre les lignes avec Marlène Métraillé, je reçois Antoinette Richner, auteur d'un premier roman paru aux éditions Buchet-Chastel. Le prix, tel est son titre. Soyez les bienvenus, bonjour. Au mi-temps de la trentaine, notre invité s'est inventé un parcours personnel et artistique sinueux qui traduit sans doute un goût immodéré pour la découverte de nouveaux territoires. Son site personnel d'ailleurs aux multiples arborescences en témoigne. Toute jeune, Antoinette Richner s'est formée à l'école d'art de Vevey, ce qui lui a permis de fréquenter abondamment les coulisses du théâtre en tant que technicienne et scénographe. Elle s'est souvenue de cette expérience des coulisses lorsque par la suite, elle a écrit plusieurs textes destinés à la scène, pièces créées en Suisse et en France, dont certaines ont d'ailleurs été publiées. Mais l'écriture est une compagne de longue date d'Antoinette Richner. La première fois que l'un de ses textes a été publié, c'était en 1999. Elle avait tout juste 20 ans lorsque sa nouvelle « Jour de visite » a été primée dans le cadre du prix international Jeunes auteurs, ce qu'on appelle en termes choisis le PIJA. Convaincue que l'acte d'écrire nécessite gamme et discipline, la jeune femme s'est immiscée dans la première volée de l'Institut littéraire suisse à Bienne, une formation universitaire riche qui lui a ouvert de nouveaux horizons littéraires. Et depuis, Antoinette Richner met aussi son talent de plume au service des autres. Il lui arrive souvent d'animer des ateliers d'écriture. Son sens de la communauté l'a aussi conduite à différentes aventures éditoriales collectives. Et comme l'auteur apprécie les changements de décor, elle a plusieurs fois pris ses clics et ses plumes pour aller écrire à l'étranger. Elle a été au bénéfice de diverses bourses d'écriture qui lui ont offert le statut d'hôtesse en résidence. C'est justement pendant une résidence bretonne et berlinoise qu'Antoinette Richner a conçu son premier roman. Il est intitulé « Le Prix » et il a fraîchement paru dans la très joliment nommée collection « Qui vive » de Buchet-Chastel. Bonjour Antoinette Richner.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir autour de notre table de lecture. Bienvenue.
Merci de cette invitation.
Ce premier roman porte un titre qui lui va ravir puisque son écriture découle d'un prix littéraire dont vous avez été la lauréate en 2011. Dites-nous en plus.
C'était une bourse de travail relativement importante qui m'a permis en fait de consacrer, je dirais une dizaine en tout cas, de mois consécutifs à ce chantier d'écriture du roman Le Prix.
Ce qui est plusieurs rare. Dizaines de milliers de francs, c'est une somme considérable.
50 000 francs pour être exact.
Confortable.
Oui. Bon, il faut la diviser comme je dis, 10 ou 12 mois, enlever peut-être quelques cotisations sociales et on se peut-être comparer ça au revenu moyen suisse pour rendre compte, un petit peu situer la somme. Mais c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, comme je cumule beaucoup de petits mandats pour joindre les deux bouts, là c'était une occasion vraiment rare de pouvoir rester dans le même chantier sur une longue durée.
Et puis sur un plan plus symbolique, c'est une somme confortable qui cautionne le fait que l'écriture nécessite un véritable travail au quotidien. Et ça, vous y êtes sensible?
Particulièrement dans le cas d'une œuvre de longue haleine. Moi, c'était la première fois que je me frottais à l'exercice du roman. Donc j'avais un volume de pages beaucoup plus important que ce que je connaissais jusque-là. Mmh. Et je pense que c'était d'autant plus important de pouvoir revenir dans cette matière tous les jours et l'avoir de façon vive un peu au bout des doigts sur le clavier, de l'avoir en mémoire, de savoir vraiment tout ce que ça brassait pour pouvoir avancer.
C'est vrai qu'auparavant, Antoinette Richner, vos textes publiés étaient plus brefs ou fragmentaires. On se souvient de petites collections d'instants fossiles publiées à l'Aib il y a quelques années, comportait donc des récits, des brèves nouvelles, des instantanées même, alors que Le Prix est un épais roman de près de 300 pages. Est-ce que les conditions d'écriture ont-elles modifié votre approche?
J'avais lu une fois Raymond Carver qui parlait de ses nouvelles en disant qu'il écrivait des formats courts parce qu'il avait deux enfants, donc il avait des plages de
temps. Ce qui est votre cas aussi.
Oui, tout à fait. Donc je me reconnaissais un petit peu là-dedans. Et c'est vrai, je pense que la création littéraire, la création en général, elle dépend de conditions pratiques, de conditions matérielles.
Mais c'est bien de le rappeler aussi de temps en temps. Hein. L'écrivain n'est pas forcément un être illuminé qui attend l'inspiration à sa table d'écriture. Vous en êtes.
Il est en tension entre effectivement quelque chose de plus aérien, il est peut-être en relation avec une forme d'inspiration. Je vais mettre les guillemets céleste ou disons immatérielle. Et un ancrage dans un quotidien qui est prosaïque, qui est celui de tout un chacun.
Lors de votre passage à l'Institut littéraire de Bienne, donc ce cursus universitaire que vous avez suivi, vous faisiez partie, je le disais, de la première volée. Est-ce qu'on osait parler encore de cette inspiration, un mythe un peu romantique concernant l'écrivain, ou c'est quelque chose qu'on évacue complètement et on insiste sur le fait que l'écriture, c'est un travail, c'est une discipline quotidienne?
Moi, j'ai jamais eu le sentiment que je devais nier cette part aussi de mystère qu'il y a dans l'écriture. Je pense que ça arrive effectivement qu'on soit traversé par quelque chose d'un petit peu plus vaste que nous, qui arrive ou qui n'arrive pas. On ne le choisit pas forcément, en fait. Et on le sent bien quand on est vraiment lancé dans l'écriture. Parfois, ça va plus vite, que les idées viennent plus vite qu'on arrive à les écrire. Donc, il y a une forme de dictée. Et je me sens comme le véhicule de ça plutôt que la source de ça.
Vous écrivez sous la dictée.
Mais pas toujours. Parfois j'essaye et puis ça ne fonctionne pas si bien que ça. Mais par contre, pour moi, ce mystère-là, ne pas le nier, ça ne veut pas dire nier la part de travail. C'est justement qu'il y a les deux, en fait.
Ouais, c'est une conjonction entre le mystère et le travail.
Oui, on le voit justement dans ce roman où finalement la création, c'est à la fois... quelque chose de naturel comme la pomme qui pousse sur le pommier, et c'est à la fois un travail d'extraction comme un minerai où il faut sortir le minerai de la terre. Donc je pense qu'il y a vraiment les deux. Il y a une part qui se forme par miracle et une part qu'il faut vraiment travailler, sinon ça ne fonctionne pas.
Vous avez le sens de la métaphore, Antoinette Richner. À propos de pommiers, on dit que lorsque vous n'êtes pas en résidence, vous écrivez dans une roulotte qui se trouve dans un grand jardin, peut-être proche de pommiers, allez savoir.
Je confirme, mais quand même... Je vais ajouter aussi qu'il y a une autoroute pas très loin pour casser un peu le bite, parce que ça quand même pas que ce soit le paradis complet.
Ça casse le charme.
Voilà.
Ouais, évidemment, ça
la réalité est là.
La chute originelle, c'est peut-être ça aussi que vous racontez dans vos livres. Est-ce que le prix a été travaillé, peut-être retouché justement dans cette roulotte de travail?
Oui, la fin, les finitions, les corrections des preuves d'imprimerie ont été faites là.
Alors, nous allons feuilleter aujourd'hui ce premier roman avec celle qui est à mes côtés, c'est Marlène Métraillé, pour qui la littérature n'a pas de prix. Bonjour Marlène.
Bonjour, Antoinette Richner.
Bonjour.
Racontez-nous ce qu'on trouve dans ces presque 300 pages du prix.
L'argument est simplissime. Le narrateur est sculpteur, il est moi, centré sur lui, c'est indispensable. Il est carrément obsédé par son travail de création. Et par-dessus tout, depuis des années, il rêve de recevoir le prix, la consécration de tous ses efforts, la preuve que lui aussi sait faire chanter ses œuvres comme chante toute œuvre magistrale. À propos, juste un détail. Moi ne produis pas des œuvres ou des sculptures, il crée des ropfs. Des ropfs qu'il façonne passionnément, des mois durant s'il le faut. Autre particularité, les ropfs sont issus du nombril de moi. Il les accouche d'ailleurs, parfois dans la douleur. Le prix met aussi en scène l'environnement de moi. S, sa moitié, sensuelle, sublime, compréhensive, mouflet, leur enfant, mignon, excité parfois, mouflet qui peut régulièrement se révéler encombrant. Moi fréquente aussi de temps à autre Béranger, son seul ami artiste, et il croisera enfin Clotilde, une galeriste un peu excentrique qu'il emploiera provisoirement. J'oubliais, un deuxième enfant, remouflé, viendra aussi compléter le tableau, scène de la vie ordinaire, somme toute. Voilà, vous savez tout, vous avez le cadre où vont se jouer les affres, les aléas et les bonheurs aussi de la création. Et si c'était une histoire dessinée, je penserais d'abord à Franquin, à ses idées noires et aux fadaises de Gaston. D'ailleurs, moi, le narrateur, moi, je me l'imagine un peu comme Gaston, libre à moi.
Gaston de Franquin.
Car en effet, Antoinette Richner, vous dessinez vos personnages en pointillés. Formellement, ils sont de la famille des personnages de Mix et Remix, simplissime encore une fois, mais idéaux pour donner toute leur place à votre palette de couleurs, à votre langue envahissante et à votre imagination déferlante. Et s'il fallait classer ce prix dans une catégorie, je le mettrais peut-être dans celle des romans d'amour, drôles et loufoques. Et vous, Antoinette Richner, si vous deviez classer ce roman dans une catégorie, laquelle choisiriez-vous?
Je suis sûre que vous avez horreur des catégories.
Oui, c'est difficile comme question. Certainement, oui, une histoire d'amour. dans la catégorie des constructions sinusoïdales, parce que rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais perdu pour de bon. C'est toujours une oscillation entre deux pôles et une sorte d'anti-conte de fées, parce que les contes de fées, ça finit par « ils s'aimèrent beaucoup, ils ont beaucoup d'enfants ». Et là, on voit bien que dans la réalité, c'est quand les enfants arrivent que les emmerdes commencent. Je l'ai dit par provocation, mais en tout cas, on voit bien qu'on va au-devant de difficultés, mais qu'elles sont toujours partiellement résolues et qu'on peut trouver les ressources en soi pour trouver une forme d'équilibre qui ne durera pas, mais qui intervient quand même.
Et autrement dit, on pourrait aussi dire que vous aimez les livres et les romans inclassables.
Oui, ça peut être jamais tellement bon signe si on peut les classer de façon tout à fait définitive.
Mais les libraires aiment beaucoup classer les livres, les bibliothécaires aussi.
Il faut bien, je pense, orienter les lecteurs. Mmh. C'est un outil en tout cas.
Mais que fait-on avec les vôtres ?
On les lit, c'est sa propre opinion.
Bon, très bien.
Et d'où vient-il ce roman à la base, ce prix ? Quelle a été la petite pomme qui vous est tombée dessus un jour de l'arbre ? À idée, à inspiration et qui vous a donné l'envie d'amorcer le bout de cette pelote.
Il y a eu plusieurs éléments, je pense peut-être déjà la fascination pour l'acte de création lui-même, en tout cas la création littéraire, cette matière qui est d'abord intérieure et qui est invisible et qui va en fait... qu'on va devoir faire sortir, justement, je disais tout à l'heure, à la fois elle sort d'elle-même et à la fois il faut quand même l'orienter, la pousser, se donner du travail pour la faire surgir. Elle reste tout d'abord assez ductile, assez malléable, elle est encore enracinée dans l'auteur lui-même. Elle n'existe pas de façon autonome, mais petit à petit, elle va s'autonomiser, en fait. On va la travailler jusqu'à ce qu'elle tienne par elle-même, et en suivant la métaphore de ces fameux ropf qui en fait deviennent des sculptures ensuite qui sèchent. Donc je ne le dis pas péjorativement qu'elles sèchent, mais c'est-à-dire elles vont pouvoir se conserver, être visibles par d'autres, pouvoir se partager et prendre leur forme définitive et exister indépendamment du sculpteur.
Contrairement à votre narrateur, Antoinette Richner, des prix, des distinctions, vous en avez obtenu plusieurs, même pas mal. Quelle importance vous leur accordez ? Sans doute moins que
je pense qu'on voit ce
narrateur.
Qu'on voit d'un auteur ou ce qu'on voit d'un artiste, c'est ce qui a marché. On ne voit pas les échecs. Donc moi, j'ai eu mes frustrations comme tout le monde. Après, la différence, c'est que cette voie de frustration-là, elle ne devient pas totalitaire dans ma tête.
Elle n'est pas obsessionnelle, comme c'est le cas pour moi.
C'est ce qui fait que je pense que je suis vivable pour mes connaissances et mes proches. Mais je me souviens d'avoir entendu une fois Peter Bixell qui recevait un grand prix. Et il a commencé par dire que pour lui, en littérature... ça lui posait problème, cette notion de concours, parce que ça se rapprochait un peu trop des Jeux Olympiques. Et je comprenais bien ce qu'il voulait dire, parce que ça, le principe du concours, ça induit une espèce de rivalité un peu primaire, quoi.
Donc, ce qu'on appelle la compétition.
Tout à fait, ouais. Voilà, la compétition. Et c'est vrai qu'en littérature, finalement, est-ce que ça a vraiment du sens de comparer les œuvres et de déterminer la meilleure ou la plus intéressante ? C'est presque comme comparer des personnes, finalement. Il faut de tout pour faire un monde, il faut sans doute aussi de tout pour faire une littérature et il y a de la place pour tout le monde vu que les possibilités de création et d'invention sont infinies, c'est ça qui est passionnant. Donc je comprends ça et à la fois j'ai envie de dire que le principe du concours a aussi un côté stimulant puisque je sais pas moi si je lis un livre qui m'impressionne, une œuvre qui m'impressionne, je me dis ah mais comment ça se fait que j'ai pas réussi à la faire moi-même. j'ai aussi cette idée-là.
Mais on peut avoir été primé comme vous l'avez été. Le besoin de reconnaissance, lui, il est intarissable. C'est pas parce qu'on a eu un prix qu'on se dit ça y est. Les doutes subsistent. Et je me demandais si pour vous, ces doutes, ce sont des freins ou ce sont des moteurs.
En tout cas, les difficultés subsistent parce que quand on reçoit un prix pour une œuvre qui est achevée, qui est comme un ropf séché, un ropf définitif, accompli. Et la difficulté, elle arrive quand on commence une nouvelle œuvre où on est, en fait, pour moi, en tout cas, c'est jamais acquis. Je me dis jamais, c'est bon, je sais comment faire. À chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais pas y arriver. On sait comment je vais. C'est comme des accidents, finalement. Enfin, ça arrive à quelque chose. On sait pas très bien comment. Et puis, les doutes, ça m'arrive fréquemment, j'écris un truc le matin sur le moment où je me dis « ça y est, j'ai touché un truc exceptionnel, c'est génial ». Puis peut-être l'après-midi même, si j'ai le malheur de le lire, je vais trouver ça complètement nul et je comprends pas comment j'ai pu penser un instant que ça avait de la valeur. pour le même texte, c'est exactement le même. Donc c'est vraiment, ça dépend tellement de l'état dans lequel on se trouve, si on est plus ou moins malheureux en soi, si on s'accepte plus ou moins. Voilà, on a un autre regard sur ce qu'on a fait.
Soulever mon t-shirt pour m'étudier le nombril. Ça, Antoinette Richner, c'est la première phrase de votre roman. Cela place d'emblée le personnage dans sa logique autocentrée, un peu obsessionnelle. Quelques lignes plus loin, voici comment il décrit son entrée sur la scène domestique auprès de celle qu'il aime. Elle s'appelle S. Le comédien Joël Maillard nous donne ce texte en lecture.
Lorsque je quitte la chambre consacrée, je trouve le couloir plongé dans l'obscurité. Passant devant la chambre de Mouflet, je distingue un corps confus, entortillé sous la couette, mais je n'entre pas. Je veux S. Encore trois pas, je pousse la porte. Avec ses plis qui le vallonnent, le lit s'étend comme un pays. S est couché en forme de S. Elle a ramené ses pieds sous ses fesses, cheveux répandus. Elle est très belle, celle que j'appelle ma femme. Belle avec ses cheveux nageurs sur ses épaules et dans son dos, où ils ondulent comme une masse de plus petits S. Je me glisse tout habillé vers son corps, m'accolant sa colonne, et j'aspire. Une large prise. Vie descendante. Commencement d'odeur par-ci par-là, où la vase devient apparente. J'approche des zones découvertes. On dirait qu'une infinie réserve d'air, prisonnière de végétaux et d'animaux cachés, renvoie vers la surface une expiration lente. Le cheminement discret mais démultiplié de milliers de bulles minuscules qui, à la surface, éclatent en toute humilité. Pensez que, dans les passages secrets d'un corps qui se maintient à bonne température, ont lieu toutes ces circulations originelles par où S n'est plus ma femme, mais une réserve sauvage qui m'échappe et échappe à son propre contrôle. Elle bouge un peu, ondoie, prononce, je suppose, mon nom dans un souffle. « Tu sais quoi ?» j'articule à son oreille. Elle se dresse avec un léger retard. « Figure-toi que j'ai gagné !» Est-ce que mes mots, ma voix, ont pris dans l'air la consistance joyeuse donnée dans l'enceinte de la tête? Sous le rayon du réverbère, je vois son air troublé, mais pas question de me laisser abattre. « J'ai reçu un coup de fil !» Je m'excite un peu. « J'ai gagné le prix S !» À en juger par son expression, mon élocution doit se révéler plutôt bizarre, voire effrayante. Ses lèvres forment quelque chose, des paroles s'emballent, mais sur ses lèvres mal éclairées, impossible de lire. Je dois lui avouer que je n'entends plus. Je dis qu'à mon avis, c'est la joie. La surprise d'avoir gagné m'a causé un de ces chocs. S allume notre lampe, me dévisage alarmé, puis balbutie à nouveau des bouillons de choses. Elle fait pour traduire des gestes pitoyables auxquels j'arrache peu de sens. Effroi sur son visage et incrédulité. Elle me prend un instant dans ses bras, me berce de toute sa douceur bouleversée, puis se lève et revient avec un carnet. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» elle griffonne. « Un courrier de leur part, c'est ça ?»« Alors tu ne me crois pas ?» je demande. S est restée impassible. Brièvement, elle réfléchit, puis écrit qu'elle m'emmène à l'hôpital. Elle fait mine de s'habiller, mais je la retiens. Pour ce qui est de la surdité, effectivement, peut-être que la déflagration à l'ouverture de la lettre... Et si mes tympans avaient crevé sous le coup ? Mais il est hors de question que je sorte d'ici, quand voitures, bâtiments et piétons ne feront que m'adresser un seul message, cette année encore, tu n'es pas lauréat. Non, foutre le pied dehors et aller se soumettre à un nom d'idiot de docteur, à ses questions, et se retrouver à lui parler concours et lettres, elle en a de bonnes, jamais de la vie. Tu n'iras pas ? Hors de question, je secoue encore la tête. Énergiquement. Alors qu'est-ce que tu comptes faire ? Rester comme ça, peut-être ? Mais je lui fais comprendre qu'il vaut mieux arrêter. Est-ce que la lettre, l'humiliation et le silence des oreilles ne suffisent pas ? Suis-je en état de me faire embêter, tourmenter par-dessus le marché ? S m'écoute, les yeux agrandis. Elle sent qu'elle perd du terrain et cherche, cherche. En elle, je vois les idées contradictoires, les intentions qu'elle jette. Elle serre son stylo à croire qu'elle va pondre une très longue tirade, puis, au bout du compte, pose simplement son matériel sur la table de chevet. Elle éteint la lumière, me tourne le dos, et je sens que, sous la couette, elle ramène ses genoux contre son ventre, en un S très serré.
Antoinette Richner, pour mettre en bouche et en onde la matière textuelle de votre livre, nous avons fait appel à un comédien qui connaît bien votre prose, puisque par deux fois il lui est arrivé de se prêter à l'exercice de la lecture en public. C'était le cas notamment lors du vernissage de votre roman Le Prix, vernissage qui a eu lieu en janvier au théâtre 221 à Lausanne. En quoi Joëlle Maillard vous semblait-il convenir plus particulièrement à votre phrasé ?
Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui correspond à la nature du personnage parce que pour moi, c'est un grand maître de l'ironie, en fait. J'ai l'impression que l'ironie, c'est un des moteurs de ce roman. Donc, je trouve qu'il est très habile dans le deuxième degré, mais qu'en même temps, il nous donne quand même un personnage humain auquel on a envie de croire ou qui est aussi attachant en même temps qu'exaspérant.
C'est étrange pour vous d'entendre votre texte, écrit dans le fort intérieur, j'imagine, donné comme ça par l'oralité, par la voix d'un autre en plus.
Oui, c'est toujours quelque chose d'assez particulier. Moi, je le connais par l'exercice du théâtre, où c'est parfois encore plus violent, parce qu'on a souvent, on a très longtemps une relation avec des mots sur un écran, puis tout d'un coup, on a une relation avec des corps et des voix sur un plateau, puis ce changement de nature, d'un côté, il a la violence de trahir ce à quoi on s'était attaché. Et de l'autre, il a le côté miraculeux d'offrir des lectures un petit peu inattendues. Enfin, souvent, il y a des phrases où on me dit « Tiens, moi, je les entendais pas comme ça. J'aurais pas soupçonné le sens que ça peut engendrer. » Et c'est ça qui me fait aimer c'est la lecture à haute voix et l'écriture scénique, en fait.
Trahison et miracle. Voilà les deux mots que je retiendrai de cette intervention, Marlène.
Pour revenir à vos mots, Antoinette Richner, dans le passage qu'on vient d'entendre, qui est situé tout au début du texte, on entre dans la géographie de l'appartement de moi et on s'aperçoit que vos décors sont très précis. Un peu comme dans le théâtre, c'est important d'avoir un décor précis pour développer un récit, une histoire.
Tout à l'heure, vous avez parlé de simplicité et je pense que c'est tout à fait particulièrement vrai dans ce cas-là quand on l'applique à la géographie parce que en fait, la représentation du monde pour ce personnage, je pense qu'elle est hyper simplifiée. Il y a le monde extérieur, l'appartement, la chambre consacrée et son ventre. Ouais. C'est comme des cercles concentriques de plus en plus intimes. Mmh. Et puis... le monde extérieur, c'est le théâtre un peu de sa parano, parce que finalement, il le subit. J'ai l'impression que pour lui, ça lui fait surtout peur. Enfin, en tout cas, au début de l'histoire, il ne veut même pas sortir de l'appartement. Pendant longtemps, il reste à l'intérieur. Et puis, on voit bien aussi qu'il s'enferme dans son propre flux de pensée. Enfin, il a clairement un problème de circulation entre l'extérieur et l'intérieur. Enfin, le monde extérieur et lui-même.
Et cette paranoïa, elle doit être d'une certaine façon communicatrice, parce que l'écrivain qui travaille dans un décor aussi simple et aussi réduit doit justement faire preuve d'une imagination délirante, en tout cas à la liberté de laisser aller son imagination.
Moi, j'ai l'impression que ça m'aide, en fait, de réduire au strict minimum, que ce soit le décor ou les idées du personnage, parce que J'ai du plaisir à lire des œuvres minimalistes, typiquement celle de Jon Foss, c'est un auteur norvégien que j'aime beaucoup et qui m'a pas mal inspiré pour écrire ça. Il y a par exemple...
Ces univers sont plus sombres que les vôtres. Hein,
plus sombres, mais moi je trouve pas non plus dénué complètement d'humour. Et puis, si je prends par exemple Mélancolia 1, c'est l'histoire d'un fou aussi, qui a un talent pour la peinture et qui n'arrête pas de se demander s'il est peintre, s'il n'est pas peintre. Donc il y a une évidente analogie là.
Donc la part obsessionnelle des personnages
oui,
vous importe,
en fait,
vous
intéresse. Moi j'admire formellement comme cet auteur, il arrive avec finalement un nombre de mots très restreint à créer des combinaisons totalement infinies. Et puis ça me fascine en fait.
Et pour les personnages, c'est pareil. Je l'ai dit, ces personnages sont réduits à une initiale ou à un moi. Il y a juste deux prénoms. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi ce Béranger et cette Clotilde ont droit à un prénom. Là aussi, c'est pour rester à l'essentiel, c'est pour maîtriser tout ce petit monde et en tirer le maximum.
Est-ce que ceux qui ont des prénoms, ils ont vraiment un droit de plus? J'ai l'impression qu'ils font une certaine façon partie du réel ou partie aussi du décor extérieur, comme Béranger, une sorte de lien à la réalité, mm-hmm. en fait. Alors que Mouflet S, c'est vrai que c'est privatif, le fait qu'il y ait juste une initiale, ça la prive peut-être d'un prénom, mais en même temps, j'ai l'impression que ça lui donne... une valeur sacrée aussi, parce que souvent quand il y a des majuscules aux mots, c'est des objets qui sont sacrés pour lui.
Je trouve que ça lui donne une silhouette aussi, cette forme de S revient souvent.
Bah, la
forme de son corps.
La courbe féminine, le fait d'être d'une certaine souplesse, je pense que pour lui c'est plutôt un hommage qu'il lui rend en l'appelant comme ça dans sa tête.
Mais mis à part S et Clotilde, d'ailleurs, la galeriste toute blanc vêtue, on la voit plus ou moins. Vos personnages sont, je le disais tout à l'heure, esquissés, très flous. Vous-même, vous les voyez clairement?
Oui, j'ai une image visuelle des scènes quand je les écris.
Mais par exemple...
Je ne vois pas le visage de Clotilde, mais...
Mais moi, vous le voyez comment?
Moi, je ne le vois pas parce que comme j'écris depuis son centre, je ne peux pas le voir.
Oui, je vois. Parlez-nous un peu de ce personnage, ce sculpteur tourmenté.
Alors, comment parler, si ce n'est dans sa relation aux autres, justement. Je pense qu'il y a l'histoire de trajectoire parallèle, typiquement avec S. On l'a vu dans ce premier passage où il y a une forme... d'impossibilité de communiquer aussi à travers la surdité ou et puis en même temps on voit bien qu'on a affaire comme à deux adversaires qui se connaissent depuis longtemps et qui connaissent très bien les stratégies de l'un et l'autre.
Beaucoup de tendresse qui se dégage de tout de même dans les pires moments.
Oui, il y a beaucoup de tendresse, puis il y a régulièrement des moments d'amour aussi, donc il y a un lien extrêmement fort, mais il y a quand même aussi beaucoup de combats et par moments d'impossibilité de communiquer vraiment. Et puis j'ai l'impression que la trajectoire va faire qu'ils se connaissent de mieux en mieux et qu'ils s'acceptent aussi de mieux en mieux. Je pense que si on prend le personnage de S au début, pour elle se méfie de la sculpture comme quelque chose qui est un peu le symptôme de sa maladie, si on veut, et que ce serait plutôt elle, je pense pas qu'elle irait jusqu'à lui interdire, mais c'est quelque chose dont elle se méfie. Et puis, je pense que plus ça va, plus elle peut voir aussi dans la sculpture une forme de remède ou d'allié qui peut le faire accéder, lui, à sa liberté, à son autonomie, à une façon d'être adulte, quoi, aussi. Une façon de trouver sa place dans le monde et de quitter, justement, l'appartement et de prendre ses responsabilités. C'est aussi de ça qu'il s'agit.
Et ce moi que vous ne voyez pas très bien, duquel vous avez du mal à vous distancier, pourquoi ne pas avoir choisi une femme écrivain?
Alors, j'espère qu'on a le temps, parce que ça va être...
On va le prendre.
Vous faites la version courte, si vous voulez bien, parce qu'on a encore deux, trois textes à écouter.
Disons que traditionnellement, les tâches qui consistent à prendre soin des enfants ou des personnes plus fragiles ou des personnes âgées, elles sont assignées aux femmes. Or, moi, j'ai... mon idéal civique ou mon idéal de société, c'est pas le sexe avec lequel on est qui devrait nous déterminer le rôle qu'on va jouer dans la famille ou dans la société, en fait. Donc, puisque pour moi, ça n'a rien à voir, l'aptitude à s'occuper des enfants, par exemple, ou à prendre soin du bien-être d'autrui, ça n'a rien à voir avec le sexe ou avec le genre, mais ça dépend déjà de l'individu et puis surtout de l'endroit où il en est dans son parcours de vie, de sa maturité, j'en sais rien, d'un moment où il serait peut-être plus enclin à ça. Mais je constate qu'en fait, on reste quand même dans l'optique de dire que c'est l'organisation domestique ou l'éducation des enfants, c'est quand même une affaire de femme, puisque même quand on propose on veut mettre en place des mesures, créer des places de crèche, j'en sais rien, on va quand même souvent on entend que ça va être pour permettre aux femmes de concilier vie professionnelle et vie familiale. On ne dit pas que ça va être pour permettre aux citoyens, au pluriel, hommes et femmes confondus. Et puis, si je pense à une assemblée de nos élus, si on pouvait sonder dans leur tête lesquelles sont traversées par des idées genre « Demain, il va falloir que je finisse plus vite pour aller chercher mon enfant à l'école ou faire une série de coups de fil pour trouver la personne qui va le faire à ma place si je ne peux pas », je m'interroge. Je me dis, si vraiment plus d'élus, par exemple, hommes, étaient confrontés à la réalité de ça dans la vie de tous les jours, peut-être que ça fait longtemps qu'on aurait nos structures d'accueil, en fait. Ouais, je m'interroge. Donc, vous avez compris, j'ai quand même un sentiment d'inégalité.
Choix militant, carrément.
C'est peut-être là un peu une des dimensions politiques qu'il y aurait dans ce livre. Quoi, mm-hmm. Parce que, clairement, moi, je me suis dit... je vais faire encore un petit détour linguistique, si vous le permettez. Mais c'est vrai que dans la langue française, on n'a pas l'équivalent du mot allemand « Mensch ». On n'a pas de mot pour dire « être humain ». Dans la fiction, je pense que c'est malheureusement encore un peu pareil. Si on veut raconter l'histoire d'un être neutre qui concerne tout le monde, on doit prendre un personnage masculin. Parce que si j'avais pris un personnage féminin, ça aurait été l'histoire d'une femme qui a des problèmes à concilier sa vie artistique et sa carrière avec sa vie domestique. Et en fait, ça aurait réduit une fois de plus toute cette problématique à une affaire de femme, ce que je ne voulais pas.
Vous parlez de langue, de langage. C'est Ropf. Moi, j'ai pensé à prof, j'ai pensé à hopper. Enfin bref, j'ai cherché beaucoup, mais c'est Ropf, quoi. Ça vient d'où, Ropf?
Ça vient de Kopf, du mot allemand Kopf, prononcé un peu à la suisse allemande.
C'est du neuchâtelois.
Plutôt du dialecte. Le K qui est prononcé un peu R. Du coup, Skopf fait Ropf.
D'abord, faut-il tout expliquer? Ropf, c'est très bien en soi.
Mais puisqu'on est là, autant vous livrer un petit peu ma cuisine.
On va tout au fond de la cuisine. Je vous propose de revenir au texte et à son oralité, Antoinette Richner. Nos auditeurs, contrairement à votre personnage nommé moi, n'ont pas perdu l'usage de l'ouïe. Alors, on va leur proposer un autre passage tiré du prix, toujours lu par Joël Maillard. Passage que vous avez choisi, Marlène.
Oui, le temps a passé. Chez moi et S, la vie suit son cours. Moi a trouvé un emploi. Il contribue donc au financement du ménage. S attend un deuxième enfant. Et moi a consenti à libérer sa chambre consacrée, c'est-à-dire son atelier, pour accueillir le nouveau venu. Parallèlement, il s'était aussi juré de ne plus se présenter pour le prix, trop douloureux, trop prenant, dangereux pour sa tête. Pourtant, à la dernière minute, il a finalement envoyé un Ropf en douce, un truc un peu bâclé, forcément. Et depuis quelques jours, il est totalement aimanté par la boîte aux lettres.
Le soir, quand je rentre et parviens dans le hall de l'immeuble, je me jette sur notre boîte. Deux factures, un relevé bancaire. Une de ces enveloppes encore qui s'ouvre et vous annonce qu'un tel et une telle ont eu un bébé de 3,4 kg sur la photo des yeux pétrole et par-dessus un prénom qu'il faudra ne pas oublier. Enfin, décharge dans ma poitrine l'enveloppe qui porte un logo, celui du concours. Tentez de se préparer. Le lauréat est averti par téléphone. Il ne reçoit pas d'enveloppe. Et pourtant, comme c'est bête, mes espoirs prennent les armes. Déchirer l'enveloppe, lire immédiatement cette lettre qui peut tout. Chercher sur la page, passer les lignes au radar, y trouve-t-on le mot « malheureusement » ou le mot « regret » ? Nous espérons vivement que nous vous invitons à... Lorsque je l'ai repéré, boule de feu, surpression, ma vue s'obscurcit, vitres soufflées, pulvérisées, je cesse de lire. De toute façon, ils n'ont pas changé une ligne à leur courrier circulaire. Partout, les gravats, refroidissement déjà de la boule de feu, formation du champignon au-dessus de la lettre. Sa forme est parfaite. Un champignon exemplaire, à la mesure de l'espoir qui conduisait quelques centièmes plus tôt mes doigts sur la feuille, mes yeux le long des lignes. Élévation et dissipation du champignon, retombée, pluie noire. Dans les choses d'ici, mon être se débat. Puisque j'ai envoyé n'importe quoi au concours, vraiment n'importe quoi cette année, pourquoi m'étonnerais-je d'avoir été éliminé ? Devrais-je me sentir vexé, pleurer comme un mouflet quand leur jugement ne me touche pas le moins du monde ? Allez-y, jugez. Je vous en prie, jugez seulement. Quant à X qu'ils élisent qui bon leur semble, même X pour la deuxième année consécutive si ça leur chante, je suis bien au-dessus de ces peccadilles. La lettre à la main, je me résous à gagner l'appartement. Tout de même, est-ce que je ne sentirais pas sourdre quelque chose, juste là dans le sensible ? De toute façon, je ne soumettrai plus jamais rien à ce maudit jury. Ils peuvent toujours m'inviter à me représenter, cette fois-ci c'est terminé. Il faut gravir les marches. Chacune d'elles conspire à me demander, étant donné que X et moi avons à peu près le même âge, sommes nés dans le même pays et parlons la même langue, comment il se fait que X soit devenu un grand, un très grand sculpteur, tandis que moi, je suis un raté. Un raté, je me dis, comme je pousse la porte, traduisant sans difficulté le message véritable que ces brutes, tout en m'encourageant à me représenter une autre année, m'adressent. Cher monsieur, ne voulez-vous pas cesser une bonne fois de nous envoyer ces merdes-là que vous prenez si présomptueusement pour des œuvres ? Cela dit, ces abrutis auraient pu reconnaître l'originalité de mon geste. Bien sûr, leur robe était, comment dire, un peu esquissée, mettons ébauchée et bon, d'accord, merdique dans sa réalisation, mais les membres du jury auraient pu y déceler mon potentiel. Oui, mon talent, c'est les idées qui comptent. Et assembler ainsi n'importe quoi constitue une idée forte, une idée carrément maîtresse, pour ne pas parler d'une preuve d'audace inouïe. Bâcler est un geste, un acte transportant, une valeur en soi, je hoquette, une valeur symbolique, mais tout cela, le jury est trop limité pour le soupçonner. Au salon, S joue avec Mouflet. Compte tenu du lancement imminent de notre prochaine exposition à la galerie, c'était aujourd'hui à elle d'aller le chercher à l'accueil parascolaire. Mouflet par le haut, ils ne m'ont pas entendu rentrer. Je prends tout de suite à droite, passant le seuil de cette chambre qui fut consacrée à la sculpture et se retrouve maintenant remplie d'affaires à moufletterie. Entre parenthèses, il n'est pas encore là que déjà il me siphonne, celui-là. Pas encore là que déjà je n'en peux plus, ni n'en veux plus. Ce n'est quand même pas le moment de briser le berceau en menus morceaux, ni de déchirer les layettes 0 à 3 mois pliées tout à côté, en commençant par celles que la grand-mère a crochetées. Et si j'avais mal lu, trop vite, et de traviole, je saurais bien faire dire la vérité à cette lettre, et je la reprends. Où diable ont-ils caché le mot « plaisir » ? Il me le faut puisqu'il appartient au rédacteur de cette saleté de lettres d'indiquer qu'il ressent du plaisir à m'annoncer que je suis lauréat. À la rigueur, il pourrait dire aussi qu'il s'en réjouit, j'admettrai la formule, mais personne ne se réjouit de m'annoncer quoi que ce soit.
Pour souligner l'aspect très organique de votre écriture, Antoinette Richner, je me suis permis d'ajouter ça et là quelques touches musicales, par moments un peu brutistes, de la pianiste Sylvie Courvoisier. La musicienne a publié en 2007 un album intitulé Signs and Epigrams. J'en ai choisi là quelques fragments. Vous êtes notre invité entre les lignes sur Espace 2 pour évoquer votre premier roman publié chez Buchet-Chastel. Il est intitulé Le Prix. Son narrateur, je le rappelle, est un sculpteur nommé tout simplement Moi, mais Moi avec une majuscule. Il soumet régulièrement à un concours son dossier dans l'espoir d'obtenir enfin ce prix convoité depuis si longtemps en signe de reconnaissance ultime. D'ailleurs, à propos de reconnaissance, vous avez placé en exergue à votre roman une citation de l'écrivain français Enzo Corman, et là je la cite, « Le mouvementeur dit qu'est un artiste, celui qui accepte l'idée qu'il pourrait n'être tenu pour un artiste que par lui-même. » Comment comprendre cette phrase à la construction assez savante et complexe, Antoinette Richner ?
Ça veut dire qu'il faut savoir s'affranchir du regard extérieur, d'une sorte de validation, d'une sorte de légitimité qui serait donnée justement par l'autorité dans ce roman symbolisé par ce jury qui est complètement invisible, on ne le voit jamais, on sait seulement qu'il existe et que c'est que ce jury qui peut nous dire si oui ou non on est un sculpteur.
Ce jury est une grande entité mystérieuse.
Oui, donc c'est réussir déjà à se dire... à se placer correctement entre la dévaluation de soi et une forme d'arrogance où on se dirait le moindre premier jet que je produis est génial. Parce qu'il y a aussi cette arrogance-là chez ce personnage. Parfois, il se croit génial aussi.
Vous en êtes capable ? Donc,
j'essaye, mais c'est tous les jours un équilibre à trouver.
Non, je parlais de l'arrogance.
Oui, parfois, je me dis, ça, quand même, c'était bien, ouais.
Marlène.
L'artiste aussi condamné à se placer en fonction des lois et des modes du milieu. Vous n'êtes pas du tout tendre avec ce milieu. Vous avez des comptes à régler ou c'est par plaisir, par provocation ?
C'est par plaisir de l'ironie, en fait. J'aime bien la dérision, j'aime bien faire le trait un peu trop fort pour qu'on puisse en rire.
J'aimerais revenir à votre écriture. Si vous avez choisi un moi sculpteur, c'est aussi pour exprimer la part visuelle qui est très présente dans votre écriture. Moi, j'imagine vos mots rangé dans une caisse à outils. Et j'ai l'impression que tout cela n'est pas sans rapport avec votre parcours. Pour rentrer au théâtre, vous choisissez de faire une école de décor. Vous allez d'abord dans les coulisses, voir comment fonctionnent les machines avant d'écrire des textes. Et il me semble que dans votre écriture, il y a aussi ce rapport au concret.
Au concret, en tout cas, et à la résistance que peut avoir la matière. En tout cas, ça me semblait une bonne illustration justement de la complexité quand on commence à créer, à écrire, de faire passer quelque chose qui était rêvé, qui avait une forme idéale dans sa tête, à un objet concret, en l'occurrence un texte qui sera ce qui sera. Mmh. Ça ne ressemble pas tout à fait à ce que j'avais rêvé de faire en fait.
Un texte pour vous est matière ?
Oui, clairement. Oui, puisqu'on peut encore plus avec l'outil informatique où on peut vraiment intervenir à chaque moment.
Oui, sauf qu'avec l'outil informatique, il est dématérialisé justement. Toute la subtilité est là.
En fait, pour moi, dans ma pratique, c'est très matérialisé.
Ah oui.
Je peux vraiment insérer quelque chose là, gonfler ce passage, réduire là, prélever un bout, aller le coller. C'est vraiment comme ça que j'ai fait. Donc, pour moi, en fait, c'est assez concret.
Encore une fois, j'ai l'impression aussi que vous l'avez, comme si vous aviez sculpté ce texte. Est-ce qu'il y avait le souci d'avoir une écriture originale, personnelle, ou elle est venue finalement naturellement ?
Elle est venue avec cette voix du personnage, en fait, qui devait être un petit peu en forme de spirale, qui devait être une sorte de rengaine, comme ça. Donc elle s'est imposée, mais ça a mis du temps pour l'affiner, puis pour trouver en fait ma façon de faire. C'est vrai que je disais avant, c'est difficile de s'abstraire de la peur de qui va me juger, qui va décider si je suis un sculpteur ou pas, un auteur ou pas. C'est se dire, je suis pas Houellebecq, je suis pas Virginie Despentes, je suis pas non plus Jon Foss pour reprendre quelqu'un qui où je souhaiterais vraiment m'identifier, où c'est un modèle pour moi. La difficulté, c'est moi, qu'est-ce qui fait ma spécificité et puis comment je peux radicaliser cette spécificité pour que ça donne quelque chose d'unique.
Avec ce personnage, justement, ça veut dire que dans votre deuxième roman, vous allez probablement trouver un autre personnage. On peut imaginer que vous allez devoir inventer une langue totalement différente qui va sonner, qui va couler différemment.
Je pense que c'est un peu tôt pour le dire, mais c'est vrai que j'ai l'impression que cette langue, elle a été inventée pour ce personnage, pour cet univers, puis qu'elle n'aurait pas forcément de sens dans un autre contexte.
Et ça, c'est une pression ?
Pour l'instant, je me la mets pas, parce que je ne me dis pas qu'il faut que je produise maintenant un autre, en tout cas pas un autre texte monologué comme ça.
Je vous pose la question parce qu'en fait, quand on en croit, moi, votre personnage, création rime avec pression, rarement avec plaisir, alors que vous, quand on vous lit On a l'impression que écrire est un vrai plaisir.
Mais je pense qu'il y a aussi des passages dans le roman où on montre qu'il vit une forme d'envol et que ça le libère aussi, ça l'élève de pouvoir créer. Donc oui, moi j'ai des moments de grand bonheur. Puis des moments où je m'arrache les cheveux, c'est toujours lié. En plus, je ne fais pas que des productions de projets personnels. J'ai aussi plein d'autres activités comme des ateliers d'écriture ou des collaborations avec des compagnies de théâtre. Donc ça prend d'autres formes aussi. Puis c'est pas, je ne suis pas dans une usine à petits pains où je me dis qu'il faut absolument que je produise maintenant un nouveau texte.
Tout à l'heure, vous avez parlé des 8 mois que vous avez obtenus quand vous avez payé pour pouvoir écrire ce texte. Est-ce que cette écriture, justement, dont on parle, elle coule aisément ou elle est le fruit de longues corrections, elle est retravaillée? Vous disiez tout à l'heure les détails, les finitions. C'est drôle parce que vous avez utilisé un terme justement de décorateur. Elle a nécessité de nombreuses finitions,
de
retouches.
De tailleur aussi, hein, les retouches précisément.
De tailleur, oui. De retirer de la matière. En fait, donc, ça s'est facilement engendré parce que j'écrivais des petits passages dans le désordre. Chaque fois que j'avais l'idée d'une scène, je l'écrivais. Puis ça coulait facilement, des scènes de 3-4 pages comme ça. Donc j'ai eu très vite énormément de matière. En 3 mois, j'avais toute la matière. Ce qui a été très long, c'était de coudre et de justement faire diminuer la chose.
Alors, je vous propose d'entendre pour la dernière fois, Antoinette Richner, le résultat de votre travail de couture et de faufilage. Une fois justement que le faufil a été enlevé et que toute la matière qui dépassait a été élaguée, on va donc entendre un troisième texte et là on va entrer dans une zone de gros temps, Marlène.
Oui, justement cette matière, cette écriture qui coule, disiez-vous. Ici, je conseille à nos auditeurs de se mettre un ciré sur les épaules bien étanches, un chapeau imperméable, chausser des bottes tant qu'à faire. Le passage qui suit mouille violemment.
Mettez donc une maison, me disent les sages-femmes. Mettez au moins un toit sur votre tête, sinon vous ne tiendrez pas. S est démontée. C'est survie en elle et tout autour d'elle, et l'univers ne contient plus rien d'autre que S en souffrance. Elle ne me regarde pas, et sa force, la masse de ses os mugissantes, a quelque chose non seulement d'effrayant, mais d'absent aussi. Elle me balaye à croire qu'elle ne me voit plus du tout et qu'elle s'est entièrement enroulée autour de son propre centre et de ses forces délirantes. Le vent me soulève par moments et si je ne me tenais pas aux sages-femmes, il m'aurait déjà emporté, mais S ne le fait pas exprès. Elle laisse simplement se déchaîner les éléments dans leur monstrueuse violence. Je suis pétrifié. Les sages-femmes sont tout ce que j'ai trouvé pour m'accrocher. Je crois que je les gêne. Arrive un moment où elle m'enfile de force 4 murs et un toit. Vous n'enfilez pas de maison, vous aussi ? Je demande bêtement. La peur me mange. J'ai oublié mon nom. Je vois venir le moment où les deux sages-femmes seront emportées comme des brindilles avec leur matériel et qu'il ne me restera qu'à mourir seul dans la folie de S. Ne vous inquiétez pas pour nous, disent les sages-femmes. Elles portent des cirés jaunes avec des capuchons et en dessous des pantalons jaunes en toile cirée également. L'une d'elles sourit, l'air de dire « on connaît notre métier tout de même » et fermement, elle détache mes doigts agrippés, fait signe à sa collègue et ni une ni deux, elle me déplace de quelques mètres, passe mes pieds dans des sangles qu'elle visse au sol pour que je ne les embête plus, dresse rapidement 4 cloisons chapeautées d'un toit, ma maison est fixée. J'ai dans ma face ouest une fenêtre d'où je peux suivre les opérations et je les vois ranger leurs visseuses. Elles vont et viennent avec des lampes tempêtes, le sourire aux lèvres lorsqu'elles me passent devant, à croire que ça les amuse de me voir trembler et imaginer ma dernière heure arrivée. J'ai l'impression qu'aucune femme au monde ne peut atteindre la puissance de S, mais elle ne semble pas impressionnée. Peut-être est-ce courant, banal pour elle une pareille tempête, alors que pour moi, c'est tout simplement la plus grande force jamais déployée dans l'histoire des forces. D'une certaine manière la plus hostile à mon égard, mais aussi la plus belle. Et même le jour où Mouflet nous est venu, je n'ai pas le souvenir que S se soit ainsi déchaîné, mais naturellement, avec le temps, la frayeur faiblit. À peine le soleil revient que l'on se met à évoquer l'aventure avec le sourire des sages-femmes, l'air de dire « je n'ai pas vraiment eu peur, je savais que tout finirait bien ». Comme l'une des sages-femmes passe près de moi, je demande quelle peut bien être la vitesse des dernières rafales. Elle s'arrête, son ciré dégouline. Sur son visage, il n'y a que de l'embrun collé, la pointe trempée d'un nez et deux feux de brouillard. Elle me demande de répéter. Elle n'a rien entendu avec ce vent qui emporte nos pauvres paroles. Je redemande à quelle vitesse vont les plus grosses rafales maintenant. Elle consulte son savoir et répond 80 km/h. Ah bon ? Je dis, ce chiffre ne me sert à rien mais me soulage quand même. Et je dis encore que dans ce cas, on y est bientôt, n'est-ce pas ? On n'en est plus très loin, car plus forte que ça, non, il me semble que les rafales ne pourront pas raisonnablement devenir. La sage-femme me regarde, elle éclate de rire. Les rafales monteront jusqu'à 110, 120, probablement 140, me dit-elle, avant de s'éloigner en riant et d'aller rapporter mes propos à la deuxième sage-femme, qui elle aussi s'esclaffe. Ça leur rend sans doute le travail moins pénible. Se foutre de ma gueule fait passer le temps plus joyeusement pour elles. Elles ont disparu dans le jus. C'est venu l'immersion intégrale dans le présent et la peur, dans la nuit de la plus forte, de la plus simple peur qui soit.
Alors ici, Antoinette Richner, on a fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire. On a coupé cette scène par le milieu. J'encourage tous les auditeurs de se précipiter pour lire la suite. Le fait, Jean-Marie l'a dit tout à l'heure, que vous avez commencé l'écriture de ce livre dans un phare, je crois, où vous êtes resté pendant un mois en Bretagne, c'est bien ça ? Ça joue un rôle ? C'est en voyant la mer se démonter que cette scène vous a surgi à l'esprit ?
Oui, tout à fait. Ça vient de là. C'est-à-dire, je pense que l'expérience fondatrice d'un accouchement, pour l'avoir vécu deux fois, ça faisait sûrement longtemps que je cherchais une manière littéraire de témoigner de ça ou de traduire ça. Mais comment rendre compte de la puissance en fait qui se dégage de ça ? Et c'est vrai que c'est venu un petit peu par accident, la dimension maritime dans le livre, parce que le lieu où j'étais m'a fortement inspirée. Et puis de voir cette mer... En fait, je l'ai connue plutôt calme. Il y a eu des très grandes marées, mais je l'ai connue calme. Et tout le monde me disait, j'espère pour toi que tu vivras quand même une tempête. Et puis, j'avais un peu peur et en même temps, j'espérais. Quoi. C'est vrai que j'imaginais ce que ça pouvait être.
Et la tempête est arrivée ?
Elle n'est pas arrivée. Donc, j'ai dû me la créer.
J'imaginais.
Et puis, pour moi, c'est ça, c'est le potentiel de puissance qu'il peut y avoir, qui peut se dégager d'un événement pareil. À partir de cet élément de l'océan qui est là, qui va, qui vient, qui respire, et tout d'un coup, ça se déchaîne.
Qui va, qui vient, qui respire d'ailleurs tout au long de ces pages. Je crois savoir que vous l'avez dit à un moment donné, c'était une des scènes les plus difficiles, l'accouchement, à imaginer écrire. Le fait d'avoir choisi de la voir du point de vue du père qui est à côté, c'était une facilité ?
Ça me permettait une fois de plus d'en rire un peu parce que j'imaginais que c'était une forme de déconfiture pour lui ou il se prend vraiment une chasse quoi. Il a la peur de sa vie.
Il se prend une chasse.
Si je peux le dire.
Je
ainsi.
Connaissais pas.
Oui, j'ai l'impression que tout à coup aussi le savoir-faire de ces deux sages-femmes qui sont là, qui gèrent l'opération, qui sont très concrètes dans leurs actions, ce contraste-là m'amusait en fait. Ouais. Mais ça n'a pas été si difficile à écrire, ça a coulé vraiment de source le passage, mais une fois de plus c'était après comment agencer tout ce qui avait été produit.
Je me demandais justement dans quel état êtes-vous quand vous lancez dans des scènes pareilles ? Il y a quelque chose d'épique.
Là, c'était vraiment très beau parce que je m'étais dit, en partant du phare, j'aimerais encore écrire cette scène parce que je savais plus ou moins qu'il y aurait la naissance de ce deuxième enfant. Je me suis dit, tout ce qui est maritime, il faut que je profite pendant que je suis là, au bord de la mer, pour l'écrire. Et j'avais un bureau comme ça en plein air, face à la mer, c'était magnifique. Et j'étais vraiment dans une forme de jubilation, d'extase d'écriture. C'était un super moment.
Et c'est dire que dès le départ, pour vous, gestation, création, devaient se rejoindre. C'est un même combat finalement ?
Non, tout au début, j'avais seulement le personnage et sa voix, sa façon de parler. C'était tout ce que j'avais. Et puis, petit à petit, les idées sont venues. Ah, voilà, il a un enfant, il y a sa femme, sa compagne, il va se passer ceci, cela, il va trouver un boulot alimentaire. Ah, il y aura un deuxième enfant. C'est vraiment des choses qui sont arrivées au fur et à mesure. Et
les idées sont venues sous la dictée, justement, on en parlait en début d'entretien. Ça aussi, ça fait partie de ces choses qui arrivent, on ne sait où.
Ou bien même quand on n'écrit pas, on a fini d'écrire pour la journée, puis on fait autre chose, et puis tout à coup, ça vient, on se dit, et si... Et s'il y avait un deuxième enfant, allez. Mmh. Ouais.
Et s'il y avait un deuxième roman, Antoinette Richter?
Allez savoir.
Et ça, c'est une question qui reste totalement ouverte.
Il est peut-être en cours.
Pour l'instant, je profite de voir ce premier roman qui vit sa vie. C'est déjà quelque chose de beau à vivre. Voilà.
Eh bien, on a eu beaucoup de plaisir, Marlène et moi, à vous recevoir aujourd'hui en direct sur Espace 2, Antoinette Richner. Merci d'avoir traversé cette heure en notre compagnie, entre tempête et douceur. On vous souhaite plein de petits remouflets littéraires pour la suite, c'est-à-dire
merci beaucoup.
Plein de romans à venir, et c'est tout à fait
merci.
Sincère. Et pourquoi pas un prix. Votre premier roman est donc intitulé Le Prix. Il apparaît aux éditions Buchet-Chastel dans la collection Qui vive. Entre les lignes vous était proposé aujourd'hui par Marlène Métraillé. Les lectures étaient assurées par Joël Maillard. La diffusion en régie, Alain Perrottet. Assistance à la production, Madeleine Techer. Merci à tous pour leur précieux travail. Production signée Jean-Marie Félix. À retrouver sur la page internet de l'émission. L'adresse rts.ch/entre les lignes en un seul mot. Demain comme un vendredi, Entre les lignes cède sa place à Zone Critique. Thierry Sartoretti et trois chroniqueurs spécialisés débattront de quelques spectacles à découvrir sur les scènes romandes. Ce sera Zone Critique, Art de la scène. Après les infos, ce sera Magma. Vous êtes à l'écoute de RTS Espace 2. Il est très exactement midi.